Bonjour chers auditeurs, bienvenue au Mardi de la mémoire. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Philippe Chaubravard. Bonjour Philippe.
Bonjour Anne.
Merci d'être ici, entre patrons d'émission de Radio Courtoisie. J'aime bien titiller l'abbé Laurence et lui dire que je suis une des rares femmes qui ait le droit de l'appeler cher confrère. Donc ça m'a toujours amusée. Mais là, je n'ai pas en face de moi un prêtre. Donc cher Philippe, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait un petit moment que je voulais qu'on fasse une émission pour rappeler tout de même à nos chers amis français qu'on est souvent donneur de leçons, mais qu'on oublie quand même qu'on s'est fort mal comporté à une certaine période de notre histoire, et surtout que les révolutions et les totalitarismes du XXe et du XXIe siècle ont pour la plupart trouvé leur inspiration dans la terreur révolutionnaire.
Dans l'expérience jacobine de 1793-1794, qui a été pour Lénine une source d'inspiration. Lénine connaissait l'histoire de la Révolution française, il l'avait étudiée. La réalité des faits ne l'intéressait pas. Ce qui l'intéressait, c'était l'usage qu'il pouvait en faire pour accomplir sa propre révolution en Russie. Il avait relevé, à juste titre d'ailleurs, que la Russie du début du XXe siècle présentait des caractéristiques comparables à celles de la France de la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire une société encore traditionnelle, une monarchie absolue, dans laquelle la religion occupait une place importante, et un début de transformation économique avec le développement d'une révolution industrielle qui commence en Russie et qui avait commencé en France autour de 1780 avec les premières grandes concentrations ouvrières autour de Lille, de Rouen, de Lyon et de Paris. Quelques dizaines de milliers d'ouvriers qui travaillaient dans des conditions nouvelles qui échappait au cadre protecteur des corporations et devant lequel la monarchie était un petit peu désarmée, sentant bien que les conditions de travail et de vie n'étaient pas conformes à ce que devrait assurer un royaume chrétien, mais néanmoins ne sachant pas ce qu'elle pouvait faire face à un phénomène nouveau qui reposait sur l'activité économique d'entreprises particulières. Dans l'ancienne France, l'État est concentré sur ses prérogatives régaliennes. Il n'est pas question pour lui d'aller au-delà. La société a sa propre vitalité. Tout le droit privé repose sur des coutumes qui ont été consacrées par le roi, mais qui ont été d'abord élaborées au sein de la population et qui ont été rédigées par une consultation d'assemblées de chaque province.
Alors Philippe Chaubravard, vous avez parlé de Lénine et de son intérêt pour la Révolution. Il a aussi un intérêt sur, si on fait un zoom, un focus sur les guerres de Vendée. Et j'ai eu du mal à retrouver, enfin je n'ai pas retrouvé d'ailleurs tout court, parce que j'ai l'impression que c'est assez contesté maintenant. Mais on racontait, il y a encore quelques années, quand je faisais mes études d'histoire, que Lénine était venu à Pornic. Alors ça, bien sûr, c'est un fait d'histoire.
Hein. Au mois d'août 1911.
Oui, il est venu en 1910, parce que il était, c'est une histoire d'ailleurs complètement incroyable. La SFIO avait acheté un ancien hôtel, l'hôtel de la plage, c'est digne d'un film de notre jeunesse. Donc la SFIO avait acheté un hôtel à Pornic, l'hôtel de la plage, pour en faire une colonie de vacances qui s'appelait, je crois, la colonie de l'air. Et donc, c'était pour faire venir le personnel ou les gens qui étaient inscrits à la SFIO. Et donc, Lénine, qui était à Paris avec son épouse et sa belle-mère depuis décembre 1909, son épouse se pique d'aller prendre les eaux à Pornic. Elle descend avec sa mère, elle s'installe dans cet hôtel qui est en travaux et elle se dit c'est pas bien du tout, ces Français sont odieux, ils me traitent de petite bourgeoise. Et donc, elle prend un pied-à-terre à Pornic où arrive Lénine. Et là, faudrait vraiment que je cherche plus, mais peut-être que vous le savez ou que des auditeurs le savent. Lénine vient, les rejoint. Il n'a pas beaucoup de temps parce qu'il y a le 8e congrès de l'International à Copenhague en août où il doit se rendre. Mais il vient travailler dans les archives. Alors, pour moi, il avait travaillé dans les archives municipales de Pornic pour étudier les guerres de Vendée.
Alors, je n'ai pas d'éléments sur la manière dont il a travaillé. Je relève simplement qu'il fait à plusieurs reprises référence aux guerres de Vendée. Et comme toujours, ce qui compte pour lui, c'est l'usage qu'il peut faire de cet événement. La Vendée devient pour lui un mythe, le modèle d'une résistance paysanne, populaire, traditionnelle contre la Révolution. Et donc, toute résistance présentant ces caractéristiques, paysanne et traditionnelle, sera par lui qualifiée de Vendée, avec l'idée d'infliger à ces mouvements le même traitement que les Jacobins ont infligé à la Vendée. Mmh. D'où l'assimilation à une nouvelle Vendée du mouvement des paysans de Tampoff, évoqué par Alexandre Sojelitsyn, alors même que les caractéristiques de ce mouvement sont assez différentes de celles de la Vendée. Il s'agit d'un mouvement paysan, d'un mouvement populaire, mais les paysans de Tampoff adhéraient à une démocratie communale socialisante. Ce n'étaient pas des défenseurs d'un ordre traditionnel, comme pouvaient l'être les populations des confins de la Bretagne, de l'Anjou et du Poitou en 1793. À cet égard, d'ailleurs, il y a un point sur lequel je nuancerai beaucoup ce qui est dit, écrit et publié depuis quelques décennies à propos de la Vendée, l'idée selon laquelle les Vendéens étaient déçus par la Révolution, qu'ils auraient accueilli la Révolution au début avec enthousiasme, qu'ils auraient été déçus, notamment par la constitution civile du clergé, et qu'ils se seraient insurgés contre elle du fait de cette déception. Lorsque l'on lit les cahiers de doléances des paroisses de la partie angevine de la Vendée militaire, on constate que au mois de mars 89, les populations de ces paroisses n'étaient pas du tout révolutionnaires, n'attendaient rien de la réunion des États généraux. Elles mettaient toutes leurs espérances dans l'action du roi. Le pain en mauge commence ainsi son cahier de doléances. Nous sommes les bons et fidèles sujets de notre bon roi Louis XVI. La paroisse voisine de la Poitevinière, nous prions Dieu qu'il ait en sa sainte garde notre roi, notre reine, les princes et même les ministres. On a quelques cahiers, une vingtaine de cahiers. Alors, dans le coin de Saint-Florent-le-Vieil, de la chapelle Saint-Florent, le pays de Bonchamp, dans la basse vallée du Layon, du côté de Saint-Lambert-du-Latay, Saint-Aubin-de-Luigné, ou du côté de Cholet, qui reprennent un modèle conservateur que faisait circuler le comte de Walsh de Serran, qui se caractérisait par deux demandes: réserver la représentation du tiers-État au peuple des campagnes dans une proportion des 4/5, et deuxièmement, le maintien des justices seigneuriales. Donc un ton très traditionnel.
Bien sûr, oui. Alors, Philippe Echaud-Braffard, je ne vous ai pas présenté. Vous êtes historien, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages. Vous avez écrit d'ailleurs un livre sur l'épopée de la Vendée. Vous avez écrit un ouvrage sur la Révolution française qui a été couronné du prix Renaissance en 2015. Vous avez écrit un ouvrage sur l'amitié dans la pensée politique. Et puis, vous avez publié, là, il y a peu, chez Via Romana, un ouvrage, L'homme transformé, but des révolutions totalitaires, qui est un... une espèce de synthèse, hein, d'ouvrage de synthèse sur la pensée et le fait totalitaire dans le XXe siècle et le XXIe siècle, avec un panel vaste de tout ce que l'on peut y mettre.
Alors c'est une réflexion autour du totalitarisme qui s'inscrit dans le prolongement de la réflexion menée sur la Révolution française il y a 10 ans. Dans la Révolution française, mon objectif était de montrer quel était le fil rouge de la Révolution qui permet de comprendre ce qu'a été cet événement. Par-delà sa complexité, la Révolution française a été une révolution idéologique dont l'ambition était de faire table rase de la réalité institutionnelle, juridique, sociale pour bâtir une France nouvelle et un homme nouveau. Bien. Et beaucoup d'initiatives prises en 1793-1794 qui peuvent de prime abord paraître curieuses. Par exemple, l'invention d'un nouveau calendrier alors que nous sommes en pleine guerre et que l'on pourrait imaginer que les comités avaient peut-être des défis un peu plus urgents à relever que d'imaginer un nouveau calendrier prennent tout leur sens lorsque l'on a en tête cet objectif de régénération. Et l'ouvrage « L'homme transformé » s'inscrit dans le prolongement de cette réflexion. C'est une réflexion autour des expériences totalitaires qui ont marqué l'histoire contemporaine tout au long du XXe siècle et qui continuent d'être pour nos sociétés une menace. D'essayer d'apporter une contribution à la définition de ce phénomène totalitaire qui, selon moi, se caractérise d'abord par la volonté de s'emparer de l'homme pour le transformer, faire naître un homme nouveau. Voilà. Les autres caractéristiques des sociétés totalitaires mises en valeur par les universitaires qui se sont intéressés à ce phénomène n'ont été souvent que des moyens en réalité mobilisés pour atteindre cet objectif. Le culte de la personnalité n'est pas le but de l'expérience totalitaire, c'est un moyen de soumission de la population. La terreur n'est pas le but de la société totalitaire, c'est un moyen de soumission de la population par la peur, de destruction de tous ceux qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas être régénérés, un moyen pour maintenir une tension permanente qui permettent d'escamoter les échecs du gouvernement totalitaire dont les résultats ne sont pas conformes aux promesses qui avaient été faites du fait du conflit permanent qui oppose l'expérience totalitaire à la réalité. Ce conflit permanent engendre de très graves difficultés et ces difficultés sont surmontées notamment par ce climat de terreur. Mais ce climat de terreur n'est qu'un moyen et par conséquent, on pourrait tout à fait imaginer une expérience totalitaire qui puisse en faire l'économie. Ou qui puisse utiliser d'autres moyens de tension que celui-ci.
Oui, alors ça, c'est peut-être une étape supérieure, c'est-à-dire qu'il faut que l'homme soit déjà quasi transformé pour qu'on ait effectivement plus besoin d'exercer de la violence sur lui, parce que de toute façon, il n'y a plus d'opposition. C'est quand même un peu ce à quoi nous sommes arrivés avec les dernières formes de totalitarisme du XXIe siècle, sur lesquelles se termine votre livre avec le transhumanisme, le wokisme, bien sûr. Mais là,
mais c'est si peut-être aussi une simple question de calendrier. Les Jacobins étaient des gens pressés. Les bolcheviks étaient des gens pressés. Ils voulaient arriver très rapidement à l'objectif qu'ils poursuivaient. Mais si, au lieu de fixer des objectifs à 5 ou 10 ans, vous fixez des objectifs à 50 ans, vous pouvez vous permettre d'agir en douceur.
Oui, bien sûr. Oui. Alors, si vous le voulez bien, Philippe Pichot-Bravard, on va prendre peut-être quelques événements de la Révolution française qui montrent tout de même que la violence, en tout cas, elle est intrinsèque dès le début de la Révolution française. On a souvent tendance, enfin, quand je dis on, c'est pas nous, hein, ni vous ni moi, ni souvent nos auditeurs de Radio Courtoisie qui savent bien l'histoire, mais communément, en tout cas, on va expliquer que la Révolution, au début, elle est très gentille, elle est très festive, et puis que progressivement, il y a ce que Benjamin Franklin appellera le vortex qui se met en route, et là, on arrive dans des horreurs. D'abord, on va rappeler une chose sémantique, c'est que un terroriste, on sait ce que ça veut dire. Le mot terroriste, il vient de terreur, et la terreur, c'est la terreur de la Révolution française. Donc il y a quand même, d'un point de vue sémantique, on utilise encore de nos jours, même dans les bouches qui nous disent que la France commence en 1789, on utilise un mot dont l'essence même renvoie à une période de notre histoire de France.
Oui, effectivement, les mots terreur et terroriste sont des mots qui sont utilisés à l'époque de la Révolution française pour dénoncer la violence politique, la violence révolutionnaire. Dans sa période paroxysmique en 1793-1794 ou à partir du dissous 1792, mais en réalité, lorsque l'on consulte les mémoires et souvenirs des contemporains, nombreux sont ceux qui relèvent l'existence d'un climat de terreur dès l'été 1789. J'en donnerai trois exemples. D'abord, Malouet. Malouet, qui est un intendant de marine, qui a été élu député du tiers-état en 1789, qui est un monarchien, un conservateur libéral. Malouet écrit dans ses mémoires que la terreur que les républicains purs date de 1793 a commencé en réalité le 14 juillet 1789, et il ajoute même qu'il serait en droit de la faire remonter un peu plus haut. Napoléon Bonaparte, à l'île en exil à Sainte-Hélène, dans les mémoires qui sont restées de ses entretiens avec Lascazes, souligne que pour lui, la terreur a commencé, il ne dit pas le 14 juillet, il dit le 4 août 89. Et il explique les ressorts de ce climat de terreur. Comment expliquer à toute une partie de la population qu'il faut abandonner leur place et partir? Il est clair qu'ils se défendraient. Alors on leur fait peur et ils s'en vont. Et il fait le lien entre ce climat de terreur, les premières atrocités, d'une part, et la première émigration, qui a été la réaction de ceux qui se sont sentis menacés et qui ont cherché à se mettre à l'abri en partant à l'étranger. Bien. Et puis le troisième témoignage, très intéressant aussi, est celui de François de Chateaubriand dans les Mémoires d'Outre-Tombe. Chateaubriand qui... lecteur de Rousseau, mais en même temps attaché à la monarchie, n'avait pas, semble-t-il, au début de la Révolution, de parti pris bien net. Et il le souligne quand il évoque les conversations qui se tenaient chez Malesherbes avec son frère et quelques autres. Et il raconte la scène terrible des têtes de Foulon de Douai et de Bertie de Sauvigny promenées au bout de pique dans Paris le 22 juillet 1789. Il était dans un hôtel, rue de Richelieu, si ma mémoire est bonne, et il raconte cette scène. Et il est épouvanté, horrifié de ce qu'il voit. Et il a cette phrase « Je déteste les banquets de cannibales ». Voilà. Et bien, de ce moment-là, son parti a été pris. Il ne pouvait rien avoir de commun avec les cannibales. Il y a de l'autre côté de la Manche.
Juste, pardon de vous interrompre, Philippe Huchaud-Bravard, parce que sans rentrer dans des détails sordides, je voudrais juste dire à nos auditeurs qu'il y a quand même, il y a des choses différentes. Il y a la tête de Louis XVI que l'on met au bout d'une pique,
que l'on présente à la foule,
mais qui est un homme qui a été décapité. Donc le procédé même de son exécution est de lui trancher la tête. Je ne dis pas que c'est moins grave que la suite, mais en revanche...
Les massacres de 89, les personnalités massacrées ont été lynchées.
C'est ça, les gens sont lynchés et on ne se satisfait pas de les avoir lynchés. On leur coupe volontairement la tête, ou dans le cas de la princesse de Lamballe, on lui coupe les seins, on lui arrache ses organes génitaux, on va fouiller à l'intérieur d'elle, on l'éventre, et c'est ça que l'on montre. Oui. Donc il y a
Le maire de Troyes a été traîné dans les rues de sa ville, les yeux crevés, à coups de ciseaux. Le colonel de Belsens à Caen, on est pendant l'été 89, le colonel de Belsens à Caen a été dépecé par la foule. Voilà. Et quand on mesure l'horreur de ce qui s'est passé le soir du 14 juillet après la prise de la Bastille, au détriment du gouverneur de la Bastille, lorsque l'on imagine l'horreur de ces têtes que l'on promène, le lynchage du maire de Troyes ou du colonel de Belsens à Caen, eh bien on prend conscience qu'il y a bien eu un climat de terreur qui a commencé à peser sur la France à partir de ce moment, aggravé par l'impunité dont ont bénéficié les meurtriers. Il n'y a pas eu de recherche, il n'y a pas eu de poursuite. Ils ont pu agir en toute impunité. Pour les massacreurs de septembre, les massacres de septembre ont occupé dans l'histoire de la Révolution une place un peu particulière. Il y a eu une large réprobation sociale. Les septembriseurs étaient montrés du doigt. On les connaissait. Et il est possible d'en retrouver les noms, puisque dans son répertoire du personnel sectionnaire, Albert Soboul, qui a recensé les 4125 militants révolutionnaires parisiens en 92, 93, 94, en donnant toutes les informations qu'il a pu trouver sur eux, signale ceux qui étaient réputés être septembriseurs. Et ces septembriseurs étaient montrés du doigt, parce que en septembre 92, l'horreur des massacres a été plus forte que d'habitude. Et plus tard, lors du consulat, Napoléon Bonaparte s'est servi d'un prétexte pour les exiler de l'autre côté de la planète.
Alors, je rappelle que nous parlons avec Philippe Huchaud-Bravard, historien, auteur de nombreux ouvrages, et notamment son dernier chez Via Romana, L'homme transformé, but des régimes ou révolutions ?
Des révolutions totalitaires.
Nous parlons de la violence intrinsèque à la Révolution française et de sa réflexion autour des phénomènes de ces révolutions totalitaires du XXe et du XXIe siècle. Ce qui a quand même pour conséquence, ce que vous venez de nous dire, Philippe Huchaud-Bravard, de nous étonner qu'on puisse encore s'émouvoir de certains faits contemporains épouvantables, tout en s'enorgueillissant d'être les produits de cette révolution de 1789. Parce que, alors je sais bien que c'est l'homme des paradoxes, Jean-Luc Mélenchon. C'est l'un des rares à dire qu'il est gêné avec les paroles de la Marseillaise. Mais en même temps, il a pris Santerre comme...
Robespierre. Oui.
Santerre était son pseudo d'étudiant maoïste. Or, Santerre, c'est le révolutionnaire type.
C'est l'un des personnages importants de la Révolution de 89. C'est un brasseur fortuné du Faubourg Saint-Antoine. Et dès les désordres de juillet 89, il joue un rôle important. Il est celui qui a les moyens de mobiliser... des hommes de main dans le faubourg Saint-Antoine. Et Santerre s'est retrouvé ensuite à la tête de la garde nationale, avant d'être remplacé par Henriot. C'est un hébertiste, ce n'est pas un robespierriste, mais il échappe à l'épuration des hébertistes en mars 94. De même qu'Henriot, de même que le cordonnier Simon, de même que le maire de Paris, Jean-Nicolas Pache. Alors Jean-Nicolas Pache, on peut le comprendre, il est visiblement assez haut perché. Et par conséquent, on ne touche pas à un personnage de cette importance. Mais ces personnages-là échappent à l'épuration et deviennent robespierristes. Voilà. Dans un article qui vient de paraître dans Monde et Vie, mon ami François Lachoux souligne que Mélenchon, qui se réfère très volontiers à Robespierre, qui se veut un héritier des Jacobins, en réalité est l'héritier d'une autre tradition politique, qui n'est pas celle de Robespierre. Stéphane Rial se soulignait qu'il y a trois gauches, une gauche de la liberté, une gauche étatiste, et une gauche de l'insurrection. Et le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, alors, il faudrait faire la part entre le personnage et son mouvement lui-même. Il y a sans doute quelques nuances à apporter, mais son mouvement s'inscrit dans cette troisième tradition, celle de la gauche de l'insurrection, qui puise son origine sous la Révolution, dans le mouvement ultra-révolutionnaire qu'on a appelé hébertiste, du nom de Jacques Hébert, le père du chêne, dont le journal, tiré à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires, était très lu dans les milieux sans culottes et qui réclamait la terreur à outrance et la déchristianisation complète du pays. Voilà. Et puis autour d'Hébert, il y a les enragés avec Jacques Roux, qui est un prêtre apostat. Il y a beaucoup de prêtres apostats parmi ces révolutionnaires radicaux. C'est un phénomène assez curieux à relever. Et puis, après la terreur, surgit Babeuf et le mouvement des égaux, qui est la première expression politique du communisme en France. Babeuf a été éliminé par le directoire, poursuivi, accusé d'une conjuration dont la réalité n'est pas établie. Bien. Néanmoins, c'est autour de Babeuf qu'est née une idée nouvelle, qui est celle de la dictature du prolétariat, théorisée par Blanqui, qui est un disciple de Babeuf, qui a découvert le mouvement des égaux dans les années 1820-1830, et qui a été un insurgé de profession. La vie de Blanqui est assez aisée à résumer. 35 ans de prison entrecoupés de 4 ou 5 journées de barricade. Voilà. Aucun régime n'a voulu le fusiller. Voilà. L'aboutissement de sa carrière, ça a été la Commune de Paris. Autre référence de Lénine. La Commune de Paris, à laquelle il n'a pas pu participer. Il était à Cahors à ce moment-là. Thiers lui a mis la main dessus. enfermé en prison, expédié en Bretagne. Ses camarades le réclamaient, rendez-nous Blanqui, on est prêt à vous rendre l'archevêque de Paris en échange. Thiers n'a pas voulu procéder à l'échange et Blanqui a manqué ce qui aurait été le grand moment de sa vie, la Commune de Paris.
En tout cas, pour en revenir à Santerre, j'invite... Alors, il n'y a pas de biographie consacrée à ce personnage, il y a une notice Wikipédia, mais j'invite les auditeurs à lire sa vie, parce que je trouve qu'il est en plus... D'abord, il meurt de sa belle mort en 1809, donc il est passé au travers de tout, il n'a même pas été exilé. Et c'est vraiment l'homme rusé, il arrive toujours à s'en sortir, il arrive d'ailleurs toujours à ce qu'on ne sache pas vraiment quelle était sa responsabilité, même dans des postes de responsabilité. C'est lui qui fait rouler le tambour pour éviter qu'on entende quelques cris de « vive le roi » ou d'effroi.
De grâce
au moment de l'exécution de Louis XVI. Et c'est quand même assez intéressant de savoir que Jean-Luc Mélenchon, jeune militant maoïste, toujours pour la révolution et l'insurrection, choisit comme pseudonyme celui de Santerre qui forcément à ses yeux le caractérisait, en tout cas c'était un modèle pour lui.
Il y a un autre personnage qui à l'époque de la Révolution française est très peu connu, auquel vient d'être consacrée une biographie par Olivier Blanc chez Via Romana, c'est Jean-Nicolas Pache. Oui. Plus personne ne sait qui est Pache.
Non, était Pétion, mais... C'est
très vrai. Discret. Oui. Ministre de la guerre en décembre 92, janvier 93. C'est lui qui a peuplé le ministère de la guerre de militants ultra-révolutionnaires. Un personnage qui avait une expérience dans le domaine de la guerre, puisqu'il était... il a épousé une bâtarde du marquis de Castres, ancien ministre de la guerre, et il avait travaillé au cabinet du marquis de Castres. Il avait une expérience, et pourtant, la conduite de la guerre sous son égide a été désastreuse, avec des détournements de fonds atteignant des proportions terribles. Songez qu'à 30 millions près, il a été incapable d'expliquer l'usage qu'il avait fait des deniers publics en l'espace de 2 mois, à 30 millions près. Quand on sait qu'un hectare de terre valait 300 francs à l'époque, qu'une vache valait 25 francs, vous voyez ce que représente 30 millions. Bien. Écarté du ministère de la guerre au début du mois de février 1993, il est devenu maire de Paris. Et il a été maire de Paris pendant un an. Et il est le véritable chef des ultra-révolutionnaires. Il agit toujours très discrètement, très habilement. Il n'a jamais été inquiété. Et pourtant, c'est un personnage de première importance.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous écoutez Les Mardis de la Mémoire, Anne Collin au micro, et j'ai le plaisir de recevoir Philippe Pichot-Bravard, lui-même patron d'émission à Radio Courtoisie, historien, auteur de nombreux ouvrages, et nous parlons des violences intrinsèques à la Révolution française et autour de son dernier ouvrage publié chez Via Romana, L'homme transformé, but des révolutions totalitaires. Alors Philippe Pichot-Bravard, il y a parce que vous l'aviez bien dit, c'est une réflexion, c'est un ouvrage de réflexion, une synthèse que vous proposez à nos auditeurs avec des études passionnantes de certains auteurs. Et vous parlez d'un concept, celui de la statolatrie, qui est évoqué par Emilio Gentile, dont nous avons déjà parlé au cours des Mardis de la Mémoire, puisque son ouvrage sur le fascisme a été traduit en français et commenté, annoté par Frédéric Lemoal, grand historien du fascisme. C'est très intéressant, toute cette réflexion que vous conduisez dans votre ouvrage, sur cette réflexion finalement, qu'est-ce que la révolution, comment la révolution s'est articulée autour de cette notion d'État, trop d'État, pas assez d'État. C'est surtout à une époque où, en plus, on change complètement le régime institutionnel.
Alors, partons de ce mot de statolatrie. Ce mot est un néologisme qui a été forgé par le pape Pie XI pour épingler l'expérience politique que connaissait alors l'Italie derrière Benito Mussolini. Statolatrie, étymologiquement, idolâtrie de l'État, ce qui correspond parfaitement au discours même de Mussolini, qui revendiquait une farouche volonté totalitaire pour assurer l'unité encore fragile de l'Italie. L'expérience fasciste a été, pour une part, l'occasion d'enraciner l'unité italienne réalisée 60 ans plus tôt et qui était encore fragile. Et revendiquant une farouche volonté totalitaire, Benito Mussolini affirmait que tout existait par l'État et il n'y avait rien de réel hors de l'État. Toute la réalité sociale était absorbée par l'État. Le mot totalitarisme est un mot qui a été forgé par un homme politique italien d'orientation libérale, Giovanni Amendola, en 1923, pour qualifier le programme politique de Mussolini. Le mot totalitario, qui a donné totalitarisme. Voilà. Alors, néanmoins, ce n'est pas parce que le mot est forgé en 1923, ce n'est pas parce que Mussolini a été le seul chef de parti à avoir revendiqué une volonté totalitaire. Ni Staline, ni Hitler, ni Mao n'ont eu cette imprudence, que le totalitarisme est apparu en 1923. Récemment, il y a maintenant 8 ans, Stéphane Courtois, dans la biographie qu'il a consacrée à Lénine, le présente comme le père du totalitarisme. Le père du totalitarisme est dans le même temps... Il souligne que Lénine puisait dans l'expérience jacobine une part de son inspiration. Donc il faut remonter encore plus haut. En 1795, nous avons un homme politique important de l'histoire révolutionnaire, Emmanuel Siès, l'abbé Siès, qui, membre du comité constitutionnel, propose au cours de l'été 95 un projet de constitution prévoyant d'instaurer un jury constitutionnaire, c'est-à-dire l'équivalent d'un conseil constitutionnel, pour éviter que la République devienne une ré-totale. On n'est pas très loin du mot totalitarisme. Et clairement, l'abbé Siès, par ce projet, réagissait contre... l'expérience que la France venait de connaître dans les mois qui précédaient, l'expérience de terreur qui a traumatisé profondément la société française et qui a marqué profondément les esprits, et que de nombreux hommes politiques se sont employés à conjurer d'une manière ou d'une autre au cours des deux premiers tiers du XIXe siècle, qu'il s'agisse de Benjamin Constant, qu'il s'agisse des doctrinaires, qu'il s'agisse de Chateaubriand, qu'il s'agisse de Tocqueville, tous ont la terreur en tête et le souci de ne jamais revivre ce que l'on venait de vivre, tant tout cela avait été terrible.
Pardon Philippe Prichaud-Ravard, je ne peux pas ne pas vous interrompre parce que votre expression « la terreur en tête », elle est à la fois malheureuse et en même temps bien nommée. Mais vous avez raison de signaler ça, ils ont tous la terreur en tête. Et je me souviens de Gabriel de Breuil, qui a été chancelier de l'Académie, enfin de l'Institut pendant de nombreuses années et qui est souvent venu au micro de Radio Courtoisie, nous disait que ce qu'il avait le plus frappé dans ses études et biographies qu'il avait consacrées consacrée aux hommes du 19e siècle, c'est que la plupart d'entre eux étaient fils de guillotinés.
Et ça... À commencer par ses propres ancêtres.
Oui,
son ancêtre a été guillotiné, le prince de Breuil, le maréchal avait été agressé par la foule en juillet 89, et le fils du prince de Breuil, Victor de Breuil, a été marqué, comme l'a été Louis-Philippe qui l'a servi comme ministre, par le souvenir de la terreur. Si l'on se place sur un autre terrain, l'hostilité personnelle de Louis-Philippe à la peine de mort ne s'explique pas autrement. En 1832, Louis-Philippe a failli faire abolir la peine de mort. C'est un fils de guillotiné. Et voilà. Il est marqué par le souvenir de ce qui s'est passé. Et les ministres qui l'entourent sont tous des fils de guillotiné. Molay, le duc de Broglie, Guizot, tous sont des fils de guillotiné.
Je me trompe ou Fouché est lui-même fils de guillotiné ?
Fouché, non. Fouché est un guillotineur.
Et son père n'a pas été guillotiné ?
Pas à ma connaissance.
Non, bon, je me trompe peut-être. Mais en tout cas, merci de toutes ces précisions, Philippe Pichot-Bravard, parce qu'effectivement, c'est très facile, hein, nous, de voir ça de façon apaisée et détachée. Mais quand on sort de la Révolution française, on sort de la terreur et on a vu ses camarades, ses frères, ses cousins. Parfois, c'est penser à la conspiration Magon, 19 membres d'une même famille qui sont arrêtés, guillotinés, dont un enfant de 13 ans, une femme enceinte, enfin, un grand-père de je ne sais pas combien d'années, plus de 80 ans, 19 personnes d'une même famille.
Tocqueville a été toute sa vie marqué par le souvenir de l'hécatombe qui avait frappé sa propre famille. Il est l'arrière-petit-fils de Malesherbes qui a été guillotiné le 22 avril 1994 avec enfants et petits-enfants, dont son oncle Jean-Baptiste de Chateaubriand, le frère de Chateaubriand. Toute leur vie, le souvenir de ces heures sanglantes les a hantés. Ils ont cherché à comprendre ce qui permettait d'expliquer ces événements et d'en conjurer le renouvellement.
En tout cas, cette formulation de « ré » totale, dont on comprend bien ce qu'elle veut signifier et que je ne connaissais pas, c'est très intéressant parce qu'effectivement, comment reprendre la main sur un pouvoir qui est allé trop loin comment remettre les affaires publiques et donc l'État au centre des préoccupations.
Alors l'État a toujours été au centre des préoccupations, mais avec une définition nouvelle et une prétention nouvelle. Les révolutionnaires de 93 sont pour beaucoup d'entre eux marqués par la lecture de Jean-Jacques Rousseau et de son contrat social. Or, Jean-Jacques Rousseau affirme qu'il n'y a aucune réalité naturelle en dehors du contrat social. Tout par l'État, rien hors de l'État. On retrouve la même formule d'un État qui prétend exercer une emprise totale sur la société et sur l'individu. Or, Rousseau a été contraint de résoudre une équation impossible dont il est seul responsable, ayant prétendu que l'homme était un tout parfait et solitaire. Personne ne lui demandait d'écrire une chose pareille. Il l'a écrite. Il l'a écrite et la difficulté, à partir de là, est d'assurer la pérennité du contrat social composé d'hommes qui sont à l'état de nature des tout parfaits et solitaires. Cela exige, si l'on veut éviter que le contrat social éclate et que les individus veuillent retrouver leur vie indépendante, de s'emparer de l'homme et de le transformer. Et c'est ce que décrit Rousseau au livre 2, chapitre 7 du contrat social, quand il décrit le mandat illimité qu'il donne à son législateur pour changer la nature humaine, altérer la constitution de l'homme, lui ôter ses forces propres pour lui en donner de nouvelles dont il ne pourrait, dont il ne pourra faire usage sans le secours d'autrui. Faire que l'homme tienne du tout sa vie et son être, dit-il, ça va très loin. Pas simplement sa propriété, ses moyens de subsistance. Non, sa vie et son être. C'est bien une emprise totale du contrat social sur les individus, de l'État sur les individus. La formule de l'État totalitaire, elle est déjà décrite là, comme l'a souligné Jacob Talman dans la réflexion qu'il avait menée sur les origines historiques du totalitarisme. Soulignant la part de Rousseau dans ses expériences totalitaires.
Est-ce que je peux, Philippe Pichot-Braffard, vous poser une question à ce stade de votre réflexion ? Toute une partie de ce qu'on qualifierait de l'élite intellectuelle, de l'élite politique, du début des années 80 au XVIIIe siècle, lit Rousseau. Voire s'intéresse ou se passionne même pour Rousseau chez des personnes qui n'ont pas du tout de visée révolutionnaire. Comment est-ce que vous expliquez qu'il n'est pas vu parce que c'était au-delà des capacités d'imagination ou bien parce que il y avait une ambiance qui n'était pas à la réflexion du lendemain
Alors c'est assez mystérieux. Rousseau a effectivement une très bonne cote au sein des élites aristocratiques. Ce n'est sans doute pas ce passage du contrat social qui a retenu l'attention. Davantage ses confessions, les promeneurs du
solitaire,
les promeneurs, voilà, le retour à la simplicité, la dénonciation de la corruption sociale. On pourrait donner toutes sortes d'exemples qui montrent cette aspiration à une plus grande simplicité dans la vie sociale que l'on retrouve dans le mobilier, que l'on retrouve dans l'art, l'abandon du rococo au profit du style néoclassique, l'habitude de construire des petites fermes, des petits hameaux au fond de son parc. Marie-Antoinette n'a pas lancé la mode, elle l'a prise en marche. Elle était lancée depuis déjà 15 ans. Par d'autres, lorsque le hameau de la Reine a été construit à Versailles, de mener, quand on est grand seigneur, une vie de gentilhomme campagnard, d'aller boire le lait de ses vaches, manger ses fraises avec la crème de ses vaches, etc. Les fraises qui ont elles-mêmes été cultivées dans son jardin potager. Enfin,
c'était des bobos.
Il y a un goût de simplicité, de retour, une certaine sensibilité également qui s'exprime et qui puise dans la lecture des œuvres de Rousseau. D'autre part, il y a au XVIIIe siècle et de plus en plus avec le temps, ce qu'a montré Xavier Martin dans son dernier livre Arrogance et manie du changement, une déconnexion d'avec le réel. Il y a dans l'ancienne France des difficultés, comme dans toute société. Il y a des réformes à apporter. La monarchie n'y arrive pas, parce qu'elle se heurte à des résistances, parce qu'elle se heurte aussi à sa propre mentalité conservatrice. L'ancienne France conserve tout et ne supprime jamais rien. Quand une institution ne répond plus aux besoins, on en crée une autre, mais sans supprimer l'ancienne. L'ancienne France ressemble un peu à ces personnes âgées qui sont la terreur de leurs héritiers, qui ne jettent jamais rien et dont il faudra vider la maison après leur départ. Voilà. Ça ressemble un peu à ça. Et une sorte d'atmosphère de brocante, de choses accumulées, qui n'est plus compris par les élites cartésiennes qui aspirent à une rationalisation, à une simplification, à une uniformisation des institutions et du droit. Et comme dans le même temps, ces élites sont de plus en plus éloignées du réel par leur formation intellectuelle, eh bien, nombreux sont ceux qui rédigent des mémoires, qui sont persuadés d'avoir trouvé la solution à toutes les difficultés que connaît la France, qui sont très sûrs d'eux et qui appellent de leur vœu une transformation très grande des institutions, du droit, de la société, et qui ont été en 89 rattrapés par la violence qui ne pouvait pas ne pas accompagner tous ces projets chimériques. Voilà. On était trop éloigné du réel pour que les réformes nécessaires soient apportées de manière apaisée et de manière sans qu'il y ait de violence. On est persuadé que les idées nouvelles vont apporter la solution de manière infaillible. Il y a dans toutes les expériences totalitaires la prétention de l'idéologie à l'infaillibilité scientifique. Ils sont le camp du bien. Et le camp du bien a tous les droits. Parce que c'est pour le bien. On retrouve ça aujourd'hui. Aujourd'hui encore, le camp du bien a tous les droits. L'entre-deux-tours des élections municipales en a été une bonne illustration. Au sein du camp du bien, on a besoin des voix de la France insoumise, sur lequel on tapait depuis des semaines. Ces gens-là ne sont pas fréquentables. Ah ben oui, mais si on cesse de les fréquenter, on perd la mairie. Eh bien, on fait des alliances. Et puis, personne ne trouve à redire quoi que ce soit. Il n'y a pas de campagne médiatique. On a tous les droits. On est le camp du bien. Vous voyez ? À l'opposé, la moindre alliance de cette nature dans une ville de 9000 habitants aurait été un scandale médiatique. Là, ça a pu être tenté sans qu'on soit très regardant. Voilà. Alors certains se sont cassés les dents, d'autres ont réussi l'opération. Voilà. Ils sont le camp du bien, le camp du bien a tous les droits, y compris celui d'éliminer physiquement celui qui est considéré comme un obstacle au succès du bien, celui qui est considéré comme un ennemi. Et la violence révolutionnaire découle de là.
Oui, alors moi, ce qui me surprend beaucoup tout de même dans la Révolution française, et dans, non pas dans la Révolution à l'instant T, mais dans le récit que l'on a de nos jours et le regard qui est porté de façon plus générale, c'est qu'il peut y avoir, il y a la guillotine, il y a le tribunal révolutionnaire, il y a les exécutions arbitraires, etc. Mais il y a la violence pour la violence. Et cette violence pour la violence, elle est... c'est pas la même chose de prendre une tête qu'on a guillotinée, que d'arracher la tête à quelqu'un qui était mort d'une autre façon. Et là, on voit bien, enfin, regardez les journées d'octobre, il y a deux pauvres gardes, parce qu'il n'y en a que deux, hein, qui sont tués. C'est l'occasion pour moi de dire aux auditeurs qu'il y a une formidable exposition sur Lafayette à l'hôtel de Soubise, qu'il faut absolument aller voir. Donc il y a deux gardes du corps qui sont...
qui se sont sacrifiés pour laisser le temps à la première femme de chambre, Madame Thibault, qui avait passé la nuit debout derrière la porte de la chambre au cas où, d'entrer dans la chambre de la reine, de la réveiller, de lui passer une paire de bas et un jupon et de l'exfiltrer vers les appartements du roi.
C'est ça. Et ces deux gardes du corps se font massacrer. Ben, c'est pas suffisant de les massacrer. On leur coupe la tête, on les met au bout d'une pique et on promène ces piques aux côtés du carrosse qui ramène les enfants royaux à Paris. Ben, on est quand même dans des degrés. Alors malheureusement,
de sauvagerie.
Une minute. Philippe Huchaud-Bravard, pour décrire cette sauvagerie ou pour s'en émouvoir ou pour tirer une conclusion.
Alors effectivement, il y a une sauvagerie qui tient notamment au fait que, au cœur de l'action, cette violence, elle libère les instincts les plus laids de l'homme. Et on mobilise les personnalités les plus instables pour mener ce type d'opération. Voilà.
On en revient à Santerre qui faisait boire d'ailleurs.
Les révolutions totalitaires ne tirent pas les hommes vers le haut, elles les abîment.
Merci pour cette très belle formule finale, Philippe Huchaud-Bravard. Je rappelle le titre de votre ouvrage, L'homme transformé, but des révolutions totalitaires, aux éditions Via Romana. Chers auditeurs, à mardi prochain. Au revoir.
Merci Anne-Clé.
Vous venez d'entendre Les Mardis de la Mémoire, dirigé par Anne Collin. Émission préenregistrée le 13 avril 2026 et diffusée sur Radio Courtoisie, mardi 21 avril, de 10h à 11h et réalisée par Michael. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de cette émission. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.